In the years of the primal course, in the dawn of terrestrial birth, man mastered the mammoth and horse, and man was the lord of the earth. He made him in a hollow skin from the heart of an holy tree. He compassed the earth therein, and man was the lord of the sea. He controlled the vigor of steam. He harnessed the lightning for hire. He drove the celestial team, and man was the lord of the fire. Deep mouthed from their thrones, deep seated, the choirs of the aeons declare, the last of the demons defeated, for man is the lord of the air. Arise, O man, in thy strength, the kingdom is thine to inherit, till the high gods witness at length that man is the lord of his spirit.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago avec Marc jusqu'à 15h, une émission de 2h aujourd'hui, c'est la 1028e, ce samedi 27 janvier 2018. Voilà, vous étiez peut-être hier soir au Soubok pour applaudir les Wish Doctors et Laurent Choubrac en hommage à John Hallyday. Enfin moi en tout cas, si, oui, j'y étais, oui, il me semble, oui, j'y étais. C'était formidable, c'était terrible. Au Soubok, il se passe toujours de très très belles choses. Il n'y aura pas Jason Ritchie, c'est pas encore programmé, il n'y aura pas non plus Geneva Magnès qu'on va écouter, mais il y aura Manu Lanvin, ça sera pour le 17 février prochain. Alors réservez vos places parce que ça y est, hein, c'est bel et bien parti pour les réservations. Et peut-être qu'il y aura encore des mécontents si la salle est toute pleine. Mais voilà, il faut vous y prendre un petit peu en avance. C'est le cas également pour le nouvel Everest Blues Club organisé par Jacques Vicard et l'Asso Backstage qui aura lieu le 23 février avec Kyle Brox notamment. Ça y est, c'est complet. Au bout de 4 jours de vente, je crois, entre 15 et 19 janvier, toutes les places ont été vendues. Il y en avait 200. Et ça ne nous empêchera pas de discuter, Jacques et moi, à propos de cette soirée-là. Ça sera le 10 février, lors de la prochaine émission. Là, on n'est que le 27 janvier, c'est la 1028e, et l'invité du jour, c'est tout à l'heure Yann Malek, du groupe Cotton Bellies, qui vient de sortir son Live Session Volume 2, qui fait suite, tout logiquement, en 2017, au Live Session Volume 1. On écoutera Yann Malek au téléphone tout à l'heure, en direct, et puis si vous avez des questions à lui poser, bien sûr, vous nous rejoignez sur le Facebook Sweet Home Chicago. J'espère que vous allez bien, vous avez compris que le deuxième titre, c'était une chanson de Geneva Magnès. C'est la toute première de son nouvel album Love is an Army. Ça s'appelle Back to Blue. Je suis très heureux de pouvoir écouter une nouveauté de Geneva Magnès parce que j'écoute très régulièrement tous ses albums. Everything is broken. Janet Van Agnes fait partie de ces personnes qui traversent les années sans prendre une ride. C'est extraordinaire. Janet Van Agnes, toujours aussi belle, toujours aussi bonne chanteuse, arrangeuse et compositrice. Cet album s'appelle Love is an Army et il est édité chez Blue Elan Records et Fathead Records. On poursuit avec une nouveauté belge. C'est Guy Verlaine qui ressort un album avec ses Mighty Gators. L'album s'appelle Guy Verlaine and the Mighty Gators. Tout simplement, voici un premier extrait. Quand je dis premier, il n'y en aura pas d'autre aujourd'hui, mais puisque vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez qu'on reviendra sur ce disque. Ça s'appelle Bantam Roulette, Guy Verlaine.
Saint Creole people need no school. If you wanna get along down a Creole town, you better take him to show the way around. Let's say le bon temps rouler, let that boule boule. Won't you be no fool? Let's say le bon temps rouler. Well, that Creole girl, she's one fine babe. She got ways like a bullfrog lick. Don't do nothing but sing all night. When it comes to love, she'll make you scream and shout. Laissez le bon temps rouler. Let that boule boule. Won't you be no fool? Laissez le bon. Got a lot of spice. Creole people gonna melt your eyes. Drinking moonshine, chopping down a cane. Well, I bet it will drive you insane. Let's say le bon temps rouler. Let that boule boule. Won't you be no fool? Let's say le bon temps rouler.
Voilà, laissez le bon temps rouler tous les jours. C'était Monsieur Guy Verlaine, donc à travers son tout nouvel album qui s'appelle tout simplement Guy Verlaine and the Mighty Gators, c'est le nom de son groupe bien entendu, un titre qu'il défend sur scène depuis déjà pas mal de temps. On poursuit avec les Cotton Bellies et juste après je passerai un petit coup de téléphone à Yann Malek qui est le leader du groupe Cotton Bellies, un groupe que vous connaissez sûrement si vous êtes un fidèle de l'émission ou si vous venez d'arriver et que vous y connaissez un tout petit peu en blues français parce que ça fait partie, c'est plus tout à fait des groupes émergents mais on va dire des groupes largement confirmé maintenant sur la scène blues hexagonale. Voici un premier extrait de ce live session volume 2, ça s'appelle My Friend, les Cotton Bellies.
My friend, you're away from my eyes. my friend, I'm wasting your lies. So, had to explain nothing way better said. Never again can we liberate right from despair.
Voilà, c'était Cotton Belly sur téléphone, si tout va bien, avec Yann Malek. Bonjour Yann. Si tout va bien, si j'appuie sur le bon bouton, est-ce que ça va Yann? Tu m'entends?
Ouais, je t'entends.
Ah ben voilà, super. Ben, écoute, ça passe, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un avait dû appuyer sur un mauvais bouton. Comment vas-tu Yann depuis tout ce temps-là? Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé de ce côté-ci de la radio.
Ouais, bah, ça va très bien, ça va très bien. On continue les projets avec les Cotton Bellies.
C'est ce qu'on entend parce que voilà, les deux derniers albums s'appellent respectivement Live Session Volume 1, Volume 2. Et ce sont des hippies. Je te poserai la question tout à l'heure pourquoi ce format. Mais peut-être que pour nos auditeurs, tu pourrais en quelques secondes brosser les quelques années qui ont émaillé toute la carrière des Cotton Bellies. Ça fait déjà plus de 10 ans que les Cotton Bellies existent, si je ne m'abuse.
Ouais, tout à fait. En fait, avec Jérôme Perrault, le guitariste, on s'est rencontrés en 2005. On a créé ce nom-là ensemble. Et du coup, là, en 12, bientôt 13 ans, on a eu le temps de faire 3 albums, environ 5 EP.
Ouais.
Et donc voilà, il y a eu du parcours. On est content d'avoir fait notre premier album en 2009. Après, on a fait This Day en 2013 et Rain Hero en 2015-2016.
Voilà, il y a un album qui avait été disque de l'année sur Sweet Home Chicago, même, je me souviens.
C'était, ouais, tout à fait.
Et donc, ces albums se sont succédés. Et puis, des scènes, des festivals en France et à l'étranger.
Ouais, tout à fait. Bah, essentiellement en France, hein, pour être honnête. On a quand même bien vadrouillé à travers l'Hexagone. Bah, sur toute la scène blues, et puis aussi à partir de 2012-2013, dans le réseau des musiques actuelles.
Ouais.
Parce qu'on fait un blues, mais pas que, trois petits points, comme on dit, souvent.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que ça peut séduire d'autres festivals qui ne sont pas uniquement blues.
Et ça ouvre de nouveaux publics, de nouveaux horizons.
Exactement, parce qu'on joue quand même une musique assez festive, communicative, et qui a tendance à plaire à tous les âges, et notamment
c'est
aux
clair.
Jeunes.
Ouais.
Et donc, ça... voilà, on a cette chance de faire une musique qui touche un large public, on va dire, en termes de génération.
J'ai envie de dire une musique riche et très métissée, parce qu'il y a du blues, mais pas que. On retrouve des éléments de jazz, on retrouve des éléments traditionnels à la grande tradition de Nola à New Orleans. Il y a des choses comme ça qui font que Cotton Belly, c'est un groupe festif, mais il y a aussi des morceaux, on va dire, un peu plus nostalgiques, un peu plus poignants, peut-être même aussi au niveau des paroles, au niveau des rythmes.
Ouais, c'est ça. En fait, on est... C'est sûr qu'on a tendance à être éclectique dans la sphère de cette musique américaine quand même. On va essayer de naviguer entre tous les styles qu'on aime en fait. Hein. Ça a vraiment du blues. Le blues est le fil conducteur, mais on se balade avec tous les styles voisins. Qui sont nés un peu grâce au blues, grâce à son influence.
Voilà, oui, parce que voilà. Le blues se nourrit de ses propres enfants. Hein.
C'est
un mythe mythologique.
Voilà, c'est un mariage entre toutes ces musiques. On adore la soul, on adore la country, on adore la folk, le rock, le gospel, le jazz. Donc voilà, on essaye de faire une petite synthèse de tout ça.
Et vous écoutez tous les mêmes choses, ou est-ce que de temps en temps, il y en a un qui arrive en salle de répète qui dit « Les gars, il faut absolument que vous écoutiez ce disque-là, c'est formidable. » comment vous faites pour écouter de la musique entre vous?
Ouais, non, en fait, on a quand même pas mal de goûts en commun, c'est vrai. Mais chacun a vraiment son univers, chacun a ses goûts propres.
Ouais.
C'est vrai que, par exemple, le bassiste, lui, vient beaucoup plus à la base du métal et de la fusion,
ouais,
et de la funk.
Ouais, tout à fait.
D'où le mariage hein, rythmique avec une batterie à l'époque qui était beaucoup plus jazz, reggae. Et voilà, quand on a posé ça sur du blues, ça a créé des mélanges, mais je m'éloigne un peu du sujet. Mais voilà, lui, il a vraiment sa culture musicale qui n'est pas du tout blues à la base.
Mmh.
Donc il nous a fait découvrir plein de choses. Moi, j'écoute du blues, je joue du blues, mais j'écoute aussi beaucoup d'autres styles. Hein. J'adore le post-rock, j'adore la musique celtique, j'adore la musique, beaucoup la musique du monde, de tous les pays. C'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Jérôme à la guitare, lui, est vraiment dans cette tradition.
Oui.
Blues rock, Allman Brothers, Tedeschi Trucks Band, et puis beaucoup d'autres choses aussi, mais on va rester un peu plus dans cette tradition guitare. Et puis avec Aurélie, on se rejoint pas mal autour de la folk.
Alors voilà, Aurélie Simonel qui elle, vient, entre autres, elle a travaillé avec Alex and the Moonshiners, je crois, il y a quelques années.
Tout à fait, oui.
Hein, et qui elle, apporte une autre touche. Mais de qui vient la patte jazz qu'on entend actuellement derrière nous, là, Yann?
Excuse-moi, la quoi?
La patte jazz, l'esprit
ça,
de New Orleans en fait qu'on entend derrière.
Ouais, mais ça c'était une version, c'était Cup Song en fait, c'était, moi j'ai toujours aimé ce son-là, ce son un peu, bon là c'est pas du Dixieland, mais on essayait de l'évoquer un petit peu à travers les clarinettes et le rythme un peu accéléré par la suite.
Mmh.
C'est un clin d'œil, bah ça vient de, je sais pas vraiment d'où ça vient, moi je sais que j'ai toujours aimé cette musique et... Cette ambiance, je voulais surtout rappeler cette atmosphère avec les cuivres. Et c'est vrai que lorsqu'on est parti il y a un an aux États-Unis, bah, notamment pour représenter la France à la IBC.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Oui, vas-y. Ouais.
On a élargi en fait notre voyage à la Nouvelle-Orléans pour enfin voir de nos propres yeux et écouter de nos propres oreilles tout cet univers qu'on écoutait que dans la musique en fait,
ouais,
dans certains films, et on a eu envie de faire notre petit clin d'œil. J'avais une chanson qui s'y prêtait depuis le début, c'est ce Cup Song, qui est beaucoup plus rapide habituellement, beaucoup plus groovy, et voilà, je voulais la poser avec un banjo et des cuivres. Et j'ai eu la chance de connaître Clément Caratini à la clarinette, qui a ramené un copain et ils ont fait un petit ensemble.
Qui sont eux des musiciens de jazz, on peut le dire.
Ouais, clairement. Ouais. Jazz et musique classique. Et d'ailleurs, c'était marrant pour la petite anecdote, ils étaient très, très contents de jouer du jazz avec des gens qui ne viennent pas du conservatoire.
Oui, c'est vrai, quand on est instrumentiste, on va dire en cuivre ou en bois, enfin en tout cas, quand on souffle dans un instrument, on a tendance à se taper 50 solfèges avant de pouvoir toucher un instrument. Ça reste frustrant, mais il paraît que ça écrème beaucoup les musiciens. Je ne sais pas d'ailleurs si cette formation très très classique continue et si elle n'a pas trouvé de nouvelle forme maintenant, parce que je trouve ça assez... C'est dommage, hein, on va dire qu'on tue Mozart un petit peu tous les jours avec cette façon de voir les choses. Je ne sais pas si tu partages mes goûts et mes opinions à ce niveau-là.
Bah, moi, c'est vrai que c'est pas un milieu que je connais beaucoup.
Oui.
Mais tout ce que je me suis, ça m'a surpris quand ils m'ont dit ça, parce que en fait, je me suis dit que, enfin, pour moi, j'étais complètement modeste par rapport à eux, moi qui n'ai aucun finalement bagage technique.
Tu veux dire que tu n'as pas de formation classique, tu sais lire la musique ou pas du tout?
Non, j'ai même aucune formation à part la mienne, quoi. Mais que je me suis faite au feeling.
Oui.
Mais et du coup, ils étaient contents en fait de trouver ça, en fait, cette sorte d'approche un petit peu. Pas du tout technique, pas du tout théorique, cette approche complètement libre en fait.
Oui, instinctive, oui.
Instinctive, voilà, c'est le mot. Et je me suis aperçu que c'était aussi une richesse, même si, c'est surtout pratique de se dire que c'est une richesse, parce que de toute façon, j'ai pas le bagage.
Peut-être aussi qu'il y a une admiration réciproque entre on va mettre des gros guillemets, les vrais musiciens, hein, ceux qui viennent du conservatoire, qui savent lire la musique et tout, et puis les autodidactes, il y a une admiration qui va dans les deux sens, non?
Bah sûrement, moi je sais que je suis admiratif des gens qui lisent la musique et qui peuvent te jouer des partoches, qui peuvent te lire tout ça, et ouais. Tu leur demandes quelque chose, ils te le sortent, ils connaissent toutes les harmonies. C'est un gain de temps assez impressionnant comparé à moi par exemple, qui quand je vais me lancer dans l'écriture d'harmonie ou additionner des voix, je vais mettre 3 ans à trouver que quelque chose que eux pourraient trouver en 2 secondes simplement avec leur savoir. Là, moi, c'est là que je suis admiratif de leur technique, de leur savoir, mais bon, en même temps, je fais rien pour l'apprendre non plus. Le fait que eux soient admiratifs de notre non-savoir.
De votre approche musicale, tout
effectivement,
simplement.
Ça m'a surpris, mais je peux comprendre le truc, quoi. Mmh. Je peux comprendre la démarche.
Alors Yann, tu sais qu'il y a des gens qui suivent l'émission, on n'est pas que tous les deux au téléphone, il y a aussi des gens qui sont de l'autre côté du poste et qui nous écoutent. Et parmi eux, ceux qui interviennent sur le Facebook, il y en a un que tu connais bien, qui s'appelle Mike Lécuyer, qui nous rappelle que vous avez remporté le tremplin Blues sur scène en 2007 et le prix OFQJ à l'occasion. Hein. C'était ouais. il y a déjà un peu plus de 10 ans, hein, puisque c'était fin 2007. Est-ce que c'est quelque chose, si on revient un peu en arrière, est-ce que c'est quelque chose avec le recul qui vous a servi beaucoup?
Ah bah énormément. Déjà, c'est la première fois qu'on allait jouer outre-Atlantique. Enfin, là, je vais pas parler de ce qui nous a servi, mais plus de ce qui nous a marqué. C'est vrai que pour le souvenir et puis pour l'impact que ça a eu sur nos esprits, et puis ça nous a clairement encouragé en fait. Et le fait de vivre cette expérience, de voir pour la première fois qu'on n'était pas ridicule face à des gens qui baignent d'un peu plus près dans la culture américaine, c'est vrai que là, ça nous a donné du peps pour la suite. Quand on est revenu, on était gonflé à bloc et puis surtout, voilà, on criait sur tous les toits. On était au début de nos démarches, on criait sur tous les toits qu'on avait été joué au Québec. Et en cela, ça nous a servi, puisque c'est toujours un petit peu flatteur, quoi, quand on dit qu'on a été joué à l'étranger.
Et puis j'allais dire, au bout de 2 ans d'existence à l'époque, 2007, ouais. C'était quasiment les débuts des Cotton Bellies, il y avait un album à votre actif, c'est ça?
Non, on avait zéro album, on avait rien, on avait, on avait un EP, quoi.
D'accord.
On avait enregistré dans la cuisine.
Ce format EP qui continue à perdurer dans votre discographie, c'est quelque chose auquel vous tenez, le fait de ne pas faire un album complet, d'en faire 5-6 morceaux?
En fait, moi, je vois un EP comme un projet inter-album.
D'accord.
Ça permet. C'est des métiers où il faut toujours maintenir une actualité.
Mmh.
Et j'ai pas envie de me dépêcher de faire des albums rapidement pour faire des albums, quoi. Un album doit être beau, doit prendre le temps de le faire bien. Par contre, un EP, c'est l'occasion d'appréhender un projet avec un peu plus de légèreté. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des nouvelles compos, on n'est pas avec des nouvelles histoires. Mais à chaque fois qu'on a fait un EP, à part ce... à chaque fois ça a une fonction un peu plus légère. Le premier qu'on a fait, c'était une démo. Le deuxième qu'on a fait, c'était 5 reprises. Parce qu'on n'avait pas de compo à l'époque, on avait l'occasion d'enregistrer. On a fait 5 reprises, donc avec un peu plus de distance. Et après, le troisième, c'était tout simplement une autre démo d'autres chansons qui allaient arriver sur un prochain album. Et là, j'ai voulu changer. Par contre, j'en avais un peu marre de faire des morceaux qui allaient se retrouver sur l'album d'après. Pas du tout avec les mêmes arrangements, bien sûr. Mais là, pour les deux derniers, Live Session, là, c'est la première fois que j'envisage l'EP comme un projet entier que je divise en deux. C'est-à-dire que je savais dès le début qu'il y aurait une partie 1 et une partie 2.
Et il n'y aura pas de partie 3, tu passeras à autre chose après.
Si, il y aura, justement, en fait, là, c'est, j'ai aimé cet exercice parce que je me suis dit, je vais lancer un petit délire de compilation, en fait.
Oui.
Un petit concept de volume que je pourrais sortir à ma guise en fonction des idées. Une sorte de tiroir où on peut mettre nos idées et c'est l'occasion de proposer au public.
C'est un peu comme, une succession d'albums avec de temps en temps des hors-séries. C'est ça l'idée?
En fait, c'est ça, c'est des hors-séries. Mais l'idée, c'est de réviser les titres qu'on a déjà composés, en fait.
Et à cette occasion-là, il y a Mike qui me pose justement une question, précisément par rapport à l'un des titres du dernier EP, le Live Session Volume 2. Ouais. Et il me met sur le nouveau disque, il y a un morceau extraordinaire de 14 minutes qui s'appelle This Day Mambo, et il te demande si c'est votre A Day in the Life.
Ah ouais. Mais en fait, ce truc-là, c'est la compilation de deux titres qu'on a créés sur deux albums différents.
Qui existent pour l'un en tant que même titre album, je crois, non?
Ah bon?
Je sais pas, je me trompe peut-être. J'ai pas la discographie sous les yeux, je te dirais, j'ai aucune fiche.
Non, mais c'est pas grave.
Je suis comme toi, j'ai pas de fiche, j'ai pas de notes, voilà, c'est
non, mais moi non plus, des fois, je me rappelle même pas de ma propre discographie. Non, ce que je veux dire, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que ces deux morceaux qu'on s'est mis à compiler sur scène, on s'est rendu compte, déjà au niveau du texte, à raconter la même histoire d'un même personnage, c'était un épisode différent de ce qu'on a un personnage fictif à qui on aime bien... On lui a inventé une histoire et on aime bien raconter un chapitre par album.
Ah, vous faites référence à chaque fois, alors c'est le fil rouge de Cotton Bellies.
C'est parce que j'adore la bande dessinée, j'adore les.
Il y a un côté bande dessinée, effectivement, oui, complètement. Ouais.
C'est l'histoire de créer un personnage dans cet esprit-là, et puis vu aussi, c'est un peu compliqué à chaque fois de tourner autour de son nombril, donc pour les textes, donc là ça permettait. De complètement se lâcher sur l'histoire. Quoi.
C'est vrai qu'on en a vite fait le tour. Hein. Le nombril, ça fait peut-être 1 cm carré.
J'ai pris un peu de ventre, mais bon, même, je crois que j'ai fait 3 fois le tour. Quoi.
Excellent.
Et voilà, et en fait, on a compilé ces deux-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est né sur scène. Et à chaque fois qu'on. Le projet des Live Sessions, en fait, c'est né comme ça, puisque à chaque fois qu'on jouait ça sur scène, les gens voulaient savoir, voulaient acheter le CD où il y avait ce moment-là. Quoi.
Et oui.
Et je pouvais pas leur proposer, et donc je me suis dit, on va créer des sessions live qu'on enregistre en studio, mais vraiment des versions récentes de nos titres.
Alors ça s'appelle Live Session, c'est enregistré en studio, mais c'est avec du re-recording ou c'est tout en direct?
Non, justement, c'est pour ça qu'on a voulu mettre le mot live, c'est-à-dire que c'est tout en direct, ouais. La voix y compris, sauf effectivement, j'ai dû, pour les chœurs, sur le premier, pour des questions d'organisation, j'ai enregistré les chœurs avec des choristes, forcément, un peu plus tard. Mais c'est le seul heureux qu'il y a eu, sinon le reste, c'est un
juste pour des problèmes de disponibilité, j'imagine.
Ouais, voilà. Ouais. Et c'est tout fait one shot, et l'image aussi, quoi. Donc c'est ça qui est important, il fallait qu'on assure aussi au niveau de la vidéo.
Oui, parce qu'on peut retrouver des vidéos, j'allais en parler, c'est pas très radiophonique, mais tout le monde a internet, et maintenant je crois que les groupes se font davantage connaître par la vidéo que par le disque, même à la limite. On peut retrouver ça bien sûr en vidéo. Le titre This Day Mambo qu'on est en train d'écouter précisément tout en parlant. Je vois sur la pochette, vous avez un agent, Sarah, qui s'est d'ailleurs chargé de nous mettre en relation pour cette interview. Je remercie Sarah bien entendu pour son travail. Elle sert à quoi, Sarah? Qu'est-ce qu'elle fait au sein des Cotton Bellies? Qu'est-ce qu'elle vous... en quoi est-ce qu'elle vous rend service?
Alors en fait, Sarah de Do It Agency, Sarah et Christophe, c'est deux agents attachés de presse avec qui on travaille. Et en fait, leur travail, c'est de tout simplement de nous trouver des interviews, de nous trouver des chroniques, en fait, de faire parler de notre production, tout simplement.
D'accord.
Et donc... C'est-à-dire qu'au sein des Cotton Bellies, on est clairement autonome sur tout le reste, sauf pour la presse qu'on a choisi de déléguer. Mmh. Parce que moi, après, j'ai mes contacts, nous, on se connaissait avant. Même si Sarah a pris le relais, mais mais j'aime, enfin voilà, c'est son travail d'organiser des interviews, de trouver des chroniques, et c'est quelque chose qui est vraiment agréable, puisque elle m'appelle, elle me dit bah voilà, tel jour t'as une interview, ça te va. Et c'est un gain de temps incroyable, en fait.
Ben oui, c'est clair. Oui, ça fait un souci de moi pour la promo, bien sûr, de la musique. Ça permet de se consacrer davantage à la création. C'est ce que vous faites, hein, tous.
Ouais.
Finalement, il y a aussi quelqu'un qui vous trouve des dates, ou c'est quand même tout le monde qui cherche?
Non, là-dessus, on est autonome.
Alors, ça veut dire c'est le contact et le réseau de chacun. C'est comme ça que ça fonctionne?
Ouais, c'est ça. C'est surtout le bassiste du groupe, Christophe, qui s'occupe essentiellement de trouver des dates.
D'accord. Et les dates des Cotton Bellies, on peut les retrouver sur Internet, je pense toujours aux auditeurs.
Ouais, sur notre site, cottonbellies.com, qu'on vient de refaire, là, on est tout fiers. On l'a ultra simplifié, en fait, donc maintenant il est vraiment efficace. C'est une page avec tout, vidéo, date. Et vous avez une autre page boutique avec toute notre discographie disponible.
Je suis en train de la mettre sur le timeline du Facebook Sweet Home Chicago, de manière à ce que les auditeurs...